Europe Midi, Rémi Bostzaron.
Bonjour, bienvenue, il est midi et demi.
C'est génial de se sentir libre, sans masque sur la figure. C'est sympa parce qu'on peut voir le visage des gens, on peut voir leur sourire.
La semaine commence sans masque pour les Israéliens à visage découvert dans les lieux extérieurs désormais, mais encore très prudents. Face à la menace des variants, nous serons sur place. La campagne de vaccination en France et une interrogation des personnes obèses. Pourquoi ne sont-elles pas prioritaires alors qu'elles sont particulièrement menacées par le virus? Un témoignage et la réponse d'Anne Le Gall. Emmanuel Macron à l'hôtel de police de Montpellier ce matin. Il entend défendre son bilan sur le thème de la sécurité du quotidien. Alexei Navalny finalement hospitalisé, on l'apprend ce matin alors que son entourage disait craindre pour sa vie après plus de deux semaines de grève de la faim en prison. En Allemagne, les Verts affichent leur ambition dans la course à la succession d'Angela Merkel. Ils ont choisi ce matin leur candidate Anna-Lena Baerbock. Elle a de sérieuses chances. Et puis, c'est peut-être une bascule dans le monde du football et même du sport avec l'annonce cette nuit de la création d'une Super Ligue européenne, un championnat entre clubs les plus riches, un projet dénoncé y compris au plus haut niveau politique. L'invité d'Europe Midi, Jean-Michel Pavlotsky, virologue au CHU Henri Mondor de Créteil. Nous parlerons avec lui des variants qui ne doivent pas tous nous inquiéter, nous dira-t-il.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on prend donc tout de suite la direction d'Israël, un pays qui présente aujourd'hui un nouveau visage, un visage démasqué. Depuis hier, le masque n'est plus obligatoire en extérieur dans ce pays où plus de la moitié de la population est vaccinée. On vous retrouve à Jérusalem, Clotilde Mravko, bonjour.
Bonjour.
Alors racontez-nous, à quoi ressemble ce premier lundi sans masque en Israël ?
Eh bien, c'est comme si on avait enlevé une espèce de barrière invisible entre les gens. Je suis dans les rues du centre-ville de Jérusalem et la plupart des badauds n'ont plus le masque. On sent que les passants se regardent, on sent une certaine envie d'aller vers les autres. Beaucoup décrivent un sentiment de joie, comme Isaac Hadès qui se promenait avec ses deux enfants, tous les trois à visage découvert.
C'est génial de se sentir libre, sans masque sur la figure. C'est sympa parce qu'on peut voir le visage des gens, on peut voir leur sourire, on peut à nouveau communiquer.
C'est aussi un soulagement car il fait chaud ces derniers jours et le port du masque était très pénible en ville. Beaucoup d'ailleurs ne l'avaient déjà plus vraiment sur le nez ces derniers jours. Si les autorités ont autorisé un tel relâchement, c'est parce que 81% des Israéliens ou des résidents de plus de 16 ans dans le pays sont vaccinés. On approche de l'immunité collective, mais le masque reste encore obligatoire dans les transports en commun et à l'intérieur des bâtiments. Le pays a peur des variants dont certains pourraient être résistants au vaccin.
Merci Clotilde Mravko, correspondante d'Europe 1 en Israël. Pendant ce temps, en France, c'est un peu moins de 20% de la population qui a reçu une première injection de vaccin, avec une interrogation au sujet des personnes obèses. Elles sont très nombreuses dans les services de réanimation et pourtant, elles ne font pas partie des publics prioritaires chez les moins de 50 ans. Parmi elles, Alina Constantin, 45 ans, qui depuis des mois sort donc très peu de chez elle, de peur d'attraper le virus.
Moi, j'ai essayé de me faire prescrire le vaccin, de m'inscrire et c'est impossible. Les centres de vaccination ne prennent pas des rendez-vous avec nous. J'en suis vraiment navrée parce que ça veut dire qu'on doit attendre encore on ne sait pas combien de mois. Et aujourd'hui, on sait que dans les services de réanimation, on est engorgé par des personnes qui arrivent avec forte obésité ou obésité surpoids, qui sont de plus en plus jeunes. Donc la réalité, elle est là. Ah oui, elle fait peur. Et puis surtout, même au niveau sociétal, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument illogique et qui choque tout mon entourage.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Victor Dolande. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Spécialiste santé d'Europe 1. Ils sont nombreux, les personnes obèses, à se sentir comme ça délaissées en ce moment.
Oui, on compte 3,5 millions de Français de moins de 50 ans qui, comme Alina Constantin, souffrent d'obésité. Alors effectivement, ces personnes ne sont pas aujourd'hui prioritaires pour la vaccination, comme les personnes souffrant de cancer, de maladies rénales ou de maladies rares. Car à ce stade, en dessous de 50 ans, l'obésité ne figure pas dans la liste des comorbidités ouvrant la voie à la vaccination.
Alors comment les autorités expliquent-elles cette situation ?
Alors le ministère de la Santé se défend de tout attentisme. Évidemment, la question de l'élargissement de la vaccination est en réflexion pour les semaines qui viennent. Pour les personnes en situation d'obésité, tout comme pour les professionnels particulièrement exposés au virus. Mais à ce stade, l'arrivée très progressive des doses oblige encore à prioriser les vaccinations. Et pour l'instant, le critère prioritaire pour le gouvernement reste celui de l'âge, car au vu des études, ce sont les personnes les plus âgées qui restent le plus à risque de formes graves de Covid.
Merci pour cette explication. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. À propos de la quarantaine mise en place pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, a noté cette précision du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce matin sur notre antenne. Ceux qui ne respecteront pas cette quarantaine seront sanctionnés d'une amende de 1 500 euros. Emmanuel Macron, lui, est dans un commissariat ce matin. Le président de la République est à Montpellier. Vous y êtes également avec lui. Hélène Terzian, il est venu pour défendre son bilan sur ce qu'il appelle la sécurité du quotidien.
Effectivement, le président échange maintenant depuis un peu plus d'une heure avec les forces de l'ordre qui agissent sur le terrain. Objectif de ce déplacement, montrer un avant et un après, illustrer de manière concrète la politique de sécurité du quotidien mise en place depuis le début du quinquennat. Montpellier, le chef de l'État, veut en faire une ville emblématique, montrer la coopération entre agents municipaux et nationaux. Le président ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là, il devrait annoncer ici un renfort de 50 policiers. Ce matin dans le Figaro, Emmanuel Macron l'a assuré, il tiendra la promesse des 10 000 forces de l'ordre en plus sur son quinquennat. Cet après-midi, le chef de l'État se rendra dans le quartier de la Mosson. C'est l'un des 58 quartiers de reconquête républicaine sur le territoire où les effectifs de forces de l'ordre sont concentrés. Dans ce quartier de la Mosson, plusieurs points de deal ont été démantelés récemment. Et ce matin, le chef de l'État l'a affirmé. Le trafic contre les stupéfiants, c'est la mère des batailles. On le voit, offensive sur la sécurité, l'un des thèmes qui comptera le plus pour la présidentielle, d'après un récent sondage, et que le président ne souhaite visiblement pas laisser à la droite.
Merci Hélène Terzian à Montpellier pour Europe 1. Et l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, sera lui ce soir sur Europe 1 pendant une heure d'entretien exceptionnel au micro et face aux questions de Michel Denisot entre 18h30 et 19h30 dans Europe Soir, présenté par Julien Bugier. Alexei Navalny, finalement hospitalisé ce matin après plus de deux semaines de grève de la faim en prison pour l'opposant politique russe. Son entourage le disait proche de la mort ce week-end. Damien Mestre, les autorités russes affirment, elles, ce matin, que son état de santé est satisfaisant.
Oui, les services carcéraux russes précisent que l'opposant est ausculté quotidiennement par un médecin et qu'on lui aurait même prescrit des vitamines. Un état satisfaisant donc pour les autorités, mais les proches d'Alexei Navalny, eux, sont bien plus préoccupés. Ils parlent de graves problèmes cardiaques et rénaux qui peuvent entraîner la mort. Ce week-end, un syndicat de médecins expliquait que la vision de l'opposant était en train de se détériorer. Ces problèmes de santé sont d'autant plus préoccupants que l'opposant se remet d'une tentative d'empoisonnement. C'était il y a un an à peine. Alors, ce transfert vers l'hôpital est conforme aux exigences des pays de l'Union européenne qui ont durci le ton depuis ce matin. Mais la police russe, elle, on vient de l'apprendre, met d'ores et déjà en garde ceux qui seraient tentés de manifester mercredi pour soutenir l'opposant.
Merci Damien Mestre pour ces précisions. Et le Kremlin, à l'instant, affirme qu'il n'assure pas le suivi de l'état de santé de Navalny. En Allemagne, dans la course à la succession d'Angela Merkel, on a déjà beaucoup parlé de la droite qui se déchire entre l'impopulaire candidat de la CDU, Armin Laschet, et le populaire candidat de la CSU, Markus Söder. CDU et CSU, deux partis frères qui ont du mal à s'entendre cette fois sur une candidature commune pour la chancellerie et qui pourraient bien se retrouver menacés par les Verts, les Grünen, qui viennent de désigner leur candidate, Hélène Kohl.
Oui, et il s'agit de Annalena Baerbock, un nom à retenir car les Verts allemands feront partie du prochain gouvernement. Aucune majorité n'est possible sans eux. Baerbock, 40 ans, jouera donc forcément un rôle clé cet automne et peut-être même en tant que chancelière. Les conservateurs n'ont plus qu'une avance de 7-8 points dans les sondages et ils se déchirent sur des questions de pouvoir personnel et les Verts ont vraiment pris le contre-pied. Ils ont tranché la question de la candidature dans la bonne humeur, nous fait-on savoir. Et le fait que Baerbock n'ait encore aucune expérience de gouvernement ne leur a pas posé problème. Cela sert même son discours. Écoutez.
Oui, je n'ai jamais été chancelière, ni même ministre. Ma candidature est celle du renouveau. Je laisse le statu quo aux autres. Il est temps que la politique se dépasse pour dessiner l'avenir. C'est ma proposition, c'est notre proposition. C'est pour cela que nous nous présentons.
Alors on l'entend, elle joue la carte du collectif. À Berlin, elle est connue pour avoir un excellent réseau. C'est sa force en plus de sa grande capacité de travail, son sens des détails, son abnégation. Juriste, spécialiste de droit international, mère de deux enfants, ancienne championne de trampoline. Elle a étudié en partie à Londres. Elle a été assistante au Parlement européen. Et il y a 5 ans, elle a participé aux négociations qui ont abouti à l'accord de Paris sur le climat.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Midi 39 précisément sur Europe 1. Dans un instant, la planète football qui se prépare à une révolution avec l'annonce d'une Super League entre les clubs les plus riches. Et Thomas Pesquet qui se prépare, lui, à décoller. C'est l'heure des derniers préparatifs pour le commandant de la Station Spatiale Internationale. A tout de suite.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
C'est la planète football et peut-être même aussi la planète sport en général qui tremble ce matin après l'annonce de la création d'une Super League, annonce faite par certains des clubs les plus riches d'Europe. Simon Rubin, ces clubs ne veulent plus de la Ligue des Champions, ils veulent se retrouver tranquillement entre eux. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors il s'agit évidemment d'argent. Hein. Selon les grands clubs qui lancent cette Super League, hein, la Ligue des Champions actuelle ne fonctionne plus. Elle ne fait plus rêver, n'attire plus de nouveaux spectateurs. Il faut changer la formule. Avec cette Super League, pas de place pour les petits. On ne garde que les clubs les plus connus, Real, Barcelone, Juventus, Manchester. Concentration de noms prestigieux, concentration de stars et donc concentration de sponsors et de médias. La Super League table sur 3,5 milliards d'euros de revenus à répartir entre les 20 clubs participants. Chaque équipe gagnerait à peu près 4 fois plus que ce que touche aujourd'hui le vainqueur de la Ligue des Champions.
Alors Simon, quand on voit le nombre de réactions ce matin, y compris au plus haut niveau politique, on comprend que ce projet dépasse le cadre du sport.
Oui, parce que c'est l'idée de l'universalité du foot là, qui est battue en brèche. Beaucoup critiquent une tentative de putsch par une oligarchie de clubs puissants qui veulent rester entre eux. Avec cette Super League, on évincerait des clubs néerlandais, russes, portugais, belges. C'est la carte de l'Europe du foot qu'on redessine. C'est un bouleversement de philosophie. Préférer l'économique au sportif, réduire l'incertitude du sport pour augmenter les revenus. Notez que le PSG et le Bayern Munich notamment refusent de prendre part à la manœuvre et soutiennent une nouvelle version de la Ligue des Champions à 36 équipes qui vient tout juste d'être votée par l'UEFA.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. J-3 pour Thomas Pesquet. Il décollera jeudi matin pour la Station Spatiale Internationale depuis le site de Cap Canaveral en Floride, à bord d'une capsule créée par la société SpaceX. Et Pesquet sera, vous le savez, le commandant de l'ISS lors de cette mission de 6 mois. Pour le moment, il est en quarantaine. L'heure d'Autriche, c'est l'heure pour lui des dernières vérifications.
Oui, vérifier que le scaphandre fonctionne, scaphandre qu'il utilisera pour ses sorties dans l'espace. Vérifier aussi la procédure de vol. Dans cette fusée SpaceX, Thomas Pesquet sera assis à droite et la capsule sans aucun bouton se commande uniquement avec 3 écrans tactiles. Thomas Pesquet est en quarantaine jusqu'au moment de monter dans la fusée pour ne pas risquer d'emporter des microbes sur la station spatiale. Et il fait toujours quelques heures de sport chaque jour, raconte son collègue, l'astronaute italien Luca Parmitano, qui s'entraîne avec lui.
J'étais à la gym de la NASA avec lui. Il est en pleine forme. Il continue à s'entraîner avec son équipage pour l'entraînement. Et maintenant, c'est un entraînement très simple. C'est un rafraîchissement des procédures. Mais surtout, je dirais qu'il est très heureux. Il est prêt.
En plus de sa famille, Thomas Pesquet a la possibilité d'inviter 80 personnes pour assister à son décollage. Personnes qui sont en train d'arriver en ce moment aux États-Unis.
Merci, Lord d'Autriche. Le temps sur Terre, Anissa Haddadi. Un ciel plus capricieux à l'est cet après-midi.
Oui, c'est vrai qu'on a dans l'ensemble quand même une journée assez ensoleillée. Hein. Pour ce lundi, ça commence bien, mais à l'est, vous le disiez Rémi, sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, cet après-midi, les nuages sont de plus en plus menaçants, avec des averses d'ailleurs prévues, parfois même quelques coups de tonnerre dans le Grand Est. Dans les Hauts-de-France, les nuages là aussi apportent des averses. Et puis plus au sud, en Provence et en Corse, nous avons cet après-midi des giboulées, en particulier sur le Var et l'île de Beauté, avec des coups de tonnerre. Également. Partout ailleurs, en fait, la France est coupée en deux. Hein. Moitié est, c'est pas terrible. Et alors, de l'autre côté, sur toute la moitié ouest du pays, là, nous avons quand même un soleil assez généreux. Quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Les températures, vous l'avez senti, j'en suis sûre, Rémi, elles sont bien plus douces. Avec 11 degrés à Dunkerque, 13 à Cherbourg et Belfort, 15 degrés à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 16 à Brest et Lille, 17 degrés à Paris, Lyon et Marseille, 18 pour Biarritz et 21 la maximale pour Carcassonne.
On l'a bien senti, effectivement, ce matin. Merci, Anissa.
Europe Midi, Rémi Bossaro.
Dans un instant, je reçois le professeur Jean-Michel Pavlotsky, virologue au CHU Henri Mondor de Créteil. Nous parlerons avec lui de l'évolution des variants, de l'évolution de l'épidémie en France. L'heure est-elle à l'optimisme ? Sa réponse dans un instant.